des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Et le patron et le président, chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, a été encore au centre des discussions aujourd'hui dans l'actualité. Lui qui s'est finalement excusé de ses propos d'hier concernant son manque de désir d'apprendre le français, là, le fait qu'il a présenté à Montréal un discours totalement en anglais, qu'il sentait pas le besoin, même après 14 ans, d'apprendre le français à Montréal, qu'on en avait en gros pas vraiment besoin lorsqu'on parlait anglais. Il s'est excusé donc ce matin, disant dans un communiqué, comme je l'ai mentionné aux journalistes mercredi, j'aimerais pouvoir parler français. Je tiens à clarifier que je ne voulais d'aucune façon manquer de respect à l'égard des Québécois et des francophones de tout le pays. Je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés et il s'engage aujourd'hui à améliorer son français, langue officielle du Canada et langue d'usage au Québec. Là, il y a une erreur factuelle ici. Oui. Tout en relevant les importants défis commerciaux qu'affronte Air Canada alors que nous sortons de la pandémie.
Ben, je parle même pas du fait que le français n'est pas la langue d'usage au Québec. Là,
c'est la langue officielle, et unique,
c'est la langue officielle, la langue commune. Mais je m'arrête sur deux points pourquoi ces excuses n'ont rien de crédible. Puis c'est rare que je vais dire ça parce que généralement j'accepte. Bon, les gens se mettent les pieds dans les plats, c'est pas le fun. Doivent parfois. Je pense à tous ceux par exemple qui vont dire là, que leurs lèvres ont été plus vite que leur cerveau, ouais. Leurs pensées, leurs paroles ont dépassé ce qu'ils pensaient vraiment.
Une tolérance, c'est pas long. On grandit de ça, nos erreurs.
Mais là, c'est que c'est pas crédible. Et voici pour les deux raisons fondamentales pourquoi c'est pas crédible. La première, c'est que la controverse existait avant le discours. Ce que j'ai su de plus ce matin, en interviewant le commissaire aux langues officielles, d'ailleurs, ça m'a étonné et agréablement surpris, le commissaire aux langues officielles du Canada, le commissaire lui-même, a entrepris une démarche auprès d'Air Canada avant le discours, avant mercredi, pour leur dire là, c'est écrit dans les journaux que j'allais faire un discours juste en anglais. Je peux pas faire ça, là.
Il y a des gens qui avaient sonné l'alarme.
Donc, si tu choisis de le faire, tu peux pas dire le lendemain, je suis désolé. Tu sais, c'est le genre d'être désolé, c'est le genre d'affaire qui arrive quand t'avais pas planifié ton geste. Là. Tu comprends? Mettons, tous les cas où la parole a dépassé la pensée, c'est que là, t'es venu sur le coup de l'émotion, t'as dit des gros mots, t'es regrette, là, ça se peut, ça. Mais quand t'es dans un événement que tu décides de faire comme tel, ayant été averti que ça se faisait pas, de ce que ça représentait, ben c'est une décision que t'es pogné pour assumer après. Deuxièmement, et là, je vais carrément, c'est carrément du côté loufoque des choses, c'est l'idée que maintenant, il veut apprendre le français. Je veux dire, c'est pas un enfant de 5 ans là, qui change d'idée là, parce que tu offres un bonbon, tu comprends, puis il dit une chose, il dit son contraire, c'est un PDG.
Ouais.
Il nous dit le mercredi, pas, il pense pas à ça. Non, il nous dit, je n'apprends pas le français, je n'ai pas appris le français, j'ai pas
j'en
le
ai
temps,
pas besoin.
J'en ai pas besoin, j'ai pas le temps d'apprendre le français, oubliez ça. Puis là, durant la nuit, il a changé d'idée le lendemain matin. Ah ben, finalement, je vais apprendre le français. Voyons donc.
Mais il faut dire, il a dit le mot améliorer le
français. Améliorer
ça,
français.
Écoute, c'est tout rentre là-dedans. C'est sûr qu'il a amélioré depuis hier, là, lisant quelques manchettes.
C'est ça, obligé, oui.
Essayant de comprendre Pierre-Olivier Zappa, peut-être compris quelques mots de plus. Là. Donc, améliorer son français.
C'est peut-être déjà fait, oui.
Oui, c'est quand même assez simple. Mais ensuite, quand même, rappelle, c'est une façon, tu t'excuses, mais en même temps, tu te justifies disant, ah, mais tu sais, là, Air Canada affronte des défis commerciaux, on sort de la pandémie. Donc,
non, mais ça pas rapport.
En gros, pourquoi vous me parlez de ça? Il y a plus important. Moi, je vois un peu de ça là-dedans.
Oui, mais Vincent, quand t'es PDG, je sais même pas comment ils gagnent, c'est des millions, là. Je veux dire, si c'était facile, là, on te payerait 32 000 piastres par année, là. Quand rendu à un certain niveau de rémunération, c'est que tu acceptes que tes épaules larges, là.
Ouais, t'as plusieurs cordes à ton arc.
Ben oui, puis que t'as des forces, puis des capacités, puis des je veux dire, combien de monde qui gagne ça au Québec, mettons, des 5 ou 10 millions et plus, là? Ben, à un moment donné, il faut que tu aies un ensemble de qualités exceptionnelles qui font que tu mérites ça, là. Ouais. T'as pas été tiré au sort.
Un propriétaire d'un petit restaurant, il a les mêmes défis, il décide de survivre à la pandémie, mais il a pas payé le même salaire,
ben,
là.
C'est ça.
Ça vient,
Faut qu'il parle des deux langues pour pas perdre ses clients.
Oui. est-ce que ces excuses ont calmé la grogne?
Pas tellement, pas, non.
Non, pas du tout. Ça s'est poursuivi aujourd'hui, le concert de critiques, autant dans les gouvernements que dans les oppositions. réunion aujourd'hui. Ça allait à peu près tout dans le même sens. Là. Donc, ou des excuses, c'était le minimum. À partir de là, il faudra montrer des gestes. Et pour plusieurs, entre autres, la liste est longue. Le NPD, Québec solidaire au Québec, le Parti québécois, le Parti libéral, même demande. Parti québécois et Parti libéral, non seulement, plusieurs demandent sa démission aujourd'hui, mais demandent même de suspendre l'octroi des 6 milliards de dollars de subventions tant que Air Canada ne se conformera pas à la loi sur les langues officielles. Je vous ai fait un petit montage de plusieurs des réactions aujourd'hui. Vous allez entendre Simon-Jolin Barrette, Alexandre Boulris du NPD, Ruba Gazal de Québec solidaire, Pablo Rodriguez,
nouveau ministre du patrimoine. Ça va pas mal tout dans le même sens.
Ça va pas mal tout dans le même sens. Ça vous donnera une idée du ton aujourd'hui.
C'est indigne de ses fonctions. Un manque de respect flagrant envers toutes les Québécoises et tous les Québécois.
Il faudrait qu'il quitte, qu'il démissionne, absolument.
Il fallait qu'il s'excuse. Moi, j'étais profondément insulté comme Québécois, comme francophone. Donc, première étape, s'excuser. Mais après ça, c'est voir qu'est-ce qu'il va faire.
Aujourd'hui, il s'excuse, mais c'est pas suffisant. Puis nous, au NPD, officiellement, on demande aujourd'hui sa démission.
Non, mais ils font exprès. Langue d'usage, le Québec a une seule langue officielle, une seule langue commune, c'est le français. Alors, en s'excusant, il en rajoute.
Les excuses, c'est le minimum, mais c'est pas suffisant. Hein? Faut que M. Rousseau apprenne le français. Pas l'améliorer, faut qu'il l'apprenne, le français. Comme on dit en anglais, trust but verify.
Bon, parce que moi, Jolin Barrette a terminé dans la langue d'usage de monsieur Rousseau. Est-ce que là, il y a quand même des crises où t'attends quelques jours et ça se calme? Est-ce que lui, là, ça va... on attend encore des décisions de monsieur Trudeau?
Ça va se calmer jusqu'à un certain point. Mais d'abord, je t'ai nommé monsieur Trudeau. Moi, à mon avis, c'est inévitable que la prochaine fois que Justin Trudeau va prendre la parole en public, il va devoir aborder cette question-là, il va devoir répondre de ça, un. Deux... J'ai l'impression que pour le Bloc québécois, ça devient un gros cheval de bataille. On lâchera pas ça demain matin. Donc, jusqu'à la rentrée parlementaire, le Bloc va vouloir aborder cette question-là. La nouvelle ministre, responsable des langues officielles, Mme Ginette Petitpas-Taylor, elle a fait un message hier dans la journée, qui est très bien, là, mais comme tous les autres. Une observatrice de la situation, outrée un peu, là, outrée de ce qu'elle dit.
Un regard de loin.
Un regard de citoyen. Mais c'est parce que t'as le goût de taper sur l'épaule et de dire « Madame,
c'est vous, là, vous avez les deux mains dedans. »
C'est vous qui êtes responsable au Canada, là, sur 30-quelques millions de citoyens. On en a choisi une pour appliquer la loi sur les langues officielles. Pis c'est vous. Fait que vous pouvez pas commenter. Vous pouvez pas commenter sur Twitter. Ben là, bon, Yann, là, lui, c'est pas drôle.
Ouais, le bateau a pris des vagues. Il y a donc bien de la vague. Non, mais c'est vous le capitaine, là. Manœuvrer, là.
Ben oui. Okay. Capitaine est sur le pont, puis il regarde ça, puis il dit, oh, je vais brancher.
C'est une tempête, hein? On va couler, parti comme c'est là. Bon. Ouais, on verra. On attend effectivement. Peut-être qu'il y a de l'attente aussi de voir est-ce que ça se calme ou pas. Mais visiblement, aujourd'hui, ça ne s'est pas calmé. Tout comme les critiques envers le gouvernement du Québec aujourd'hui, on sait qu'hier, on a confirmé qu'on renonçait à la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé au Québec. Christian Dubé, qui, aux côtés d'Horacio Arruda, de la santé publique, avait fait cette annonce. Ben, aujourd'hui, ça a critiqué là, du côté des oppositions qui accusent le gouvernement carrément d'avoir improvisé dans ce dossier-là. Christian Dubé qui se défend, disant que le système, malheureusement, ne pouvait pas prendre ses pertes d'emploi. Dit, entre autres, sur nos ondes, à notre collègue Philippe-Vincent Foisy, qui s'attend dans les prochains jours à ce que ce soit les ordres professionnels qui sortent publiquement pour exiger de leurs professionnels qu'ils soient vaccinés. Alors, qu'eux fassent une demande ferme pour la vaccination de leurs professionnels. Je vais faire entendre un montage. Je vais entendre Christian Dubé, mais aussi des oppositions aujourd'hui qui accusaient le gouvernement d'avoir improvisé dans ce dossier.
Comment on peut passer d'une situation où il n'y a pas de problème, on peut aller de l'avant, à il y aurait 500 bris de service? C'est là que le gouvernement est vraiment difficile à suivre dans cette histoire-là.
Ça fait des mois maintenant qu'on demande au gouvernement un plan pour garantir la sécurité des usagers puis garantir la sécurité du système. Malheureusement, le gouvernement avait le devoir de planifier. On a même pris 30 jours de plus pour planifier. Il a préféré bluffer.
Est-ce que le ministre de la Santé va admettre, pour une fois, qu'il s'est planté?
Je le répète, il faut protéger la santé des Québécois, mais en ce moment, nous avons un réseau de la santé qui est très fragile.
Ouais, mais il y a un bout que je comprends pas, là. Les ordres professionnels. Bon, les médecins sont vaccinés à presque 100%. Le Collège des médecins reste ferme avec ses quelques récalcitrants en disant qu'ils pourront plus pratiquer, on leur retire leur droit de pratique. Ça ne vire pas le système de santé à l'envers. OK. Le ministre, lui, il recule. Il dit, moi, je veux pas l'appliquer, la vaccination obligatoire. Mais ce matin, à Philippe Vincent, il dit, mais j'espère que les autres professionnels vont la faire appliquer. Exemple, nommons le premier qui nous vient à l'esprit, l'Ordre des infirmières. Mais si l'Ordre des infirmières suspend les droits de pratique...
On a le même problème.
Ben, on est revenu au point zéro, là. Je veux dire, au serpent puis échelle, on est revenu au carré un, là. C'est-à-dire que...
Techniquement, Christian Dubé souhaite pas ça pour vrai, là.
Ben non.
Parce que c'est une avenue qui vient d'exclure.
Ben oui, parce que c'est le même. Je veux dire, que l'infirmière ne puisse pas travailler parce qu'elle a été suspendue par son employeur le 6 de la Montérégie ou le 6 de la capitale ou peu importe, ou qu'elle ne peut plus travailler, elle ne puisse plus travailler parce qu'elle a été suspendue, ou ça va être retiré son droit de pratique professionnelle par l'ordre, l'effet est le même. T'aurais des milliers de travailleurs qui ne pourraient plus contribuer dans le réseau de la santé, qui retomberaient en crise. Donc moi, les ordres professionnels, je voudrais pas être dans leur culotte. Parce qu'ils sont coincés entre la protection du public telle que définie scientifiquement par la médecine, qui serait de faire vacciner leur monde, puis de dire, mettons, moi, je suis à l'ordre des infirmières, c'est sûr que je regarde ça, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça que des infirmières, des membres de mon ordre qui sont pas vaccinés, puis qui comprennent pas l'importance de la vaccination? Ben, alors, c'est certain que t'es tenté de suspendre leur droit de pratique, mais de l'autre côté, le ministre de la Santé est allé à la télévision, puis il a dit à tout le peuple là, que si on n'avait pas les effectifs nécessaires, on allait faire 500 ruptures de service. Fait que si moi, je suis à l'ordre des infirmières, puis j'enlève à 4000 infirmières, c'est pas 4000, c'est toutes les professions, mais j'enlève à 1200 infirmières le droit de pratique. Mais en fait, si chaque corps de métier fait la même chose, là, on leur enlève leur droit de pratique. Du point de vue de l'ordre professionnel, au nom de la protection du public, on est au même point.
Est-ce qu'ils peuvent sortir plus fermement dans le discours, pas dans la forcer,
pour les encourager
plus fermement pour les encourager.
Ben, peut-être c'est ça que Christian Dubé voulait dire, mais pour l'instant là, ce qui était prévu, c'était qu'on leur suspende leur droit de pratique. Et ça, si l'ordre des infirmières fait ça, le gouvernement se retrouve avec le même problème sur les bras.
Tout savoir en 24 minutes.
COP 26, ça s'est poursuivi aujourd'hui. François Legault a terminé son événement à Glasgow où on parle de changement climatique. Et ça s'est terminé d'une façon inattendue aujourd'hui.
Avec un véritable écolo.
qui a des intérêts. Là,
tu le dirais pas comme ça.
Oui, il y a des intérêts, disons, dans la lutte au changement climatique. C'est que François Legault, les journalistes sont partis en fin de journée à Glasgow.
C'était comme fini, là.
Oui, c'était fini. Il y avait une rencontre avec la mairesse de la Nouvelle-Orléans, la Toya Cantrell, qui a été annulée. Elle ne pouvait plus finalement se présenter. Et ce qu'on comprend, c'est que le prince Charles...
Qui passait par là.
Et vu que le monsieur Legault était libre, et il a demandé de le rencontrer. Et les deux se sont assis pour discuter. Et d'ailleurs, au dire d'équipe du premier ministre, on dit que les deux hommes ont discuté brièvement de leur volonté commune de lutter contre les changements climatiques. Le prince Charles est reconnu depuis plusieurs années pour sa contribution à la cause environnementale. Alors, les deux étaient dans le même édifice.
Il veut savoir qu'on lutte contre les changements climatiques dans tous les coins de son royaume.
Partout dans le Commonwealth. Et on dit par contre, Mario, qu'une partie de la conversation s'est déroulée en français. Prince Charles parle un très bon français, semble-t-il. Ça lui vient de sa mère et de ses années à pouvoir apprendre plein de trucs.
t'as fait dire de ces années à pas faire grand-chose.
Ben, il y avait un peu de temps libre pour apprendre des affaires.
Tu sais pas tout ce qu'ils font.
Ça sert à ça, apprendre des... pour apprendre les langues du royaume, là, entre autres, pour pouvoir discuter avec tout le monde. C'est ce qu'a fait le prince Charles. Et je me demande, par contre, en quelques minutes, avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, Mario, est-ce que tu peux... Tu dis, vous, les changements climatiques, c'est bien important. Puis vous, Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de... Mais mettons qu'il amène quelque chose à quelqu'un.
Parce que François Legault est quand même à ce que j'appelle une bonhomie. Là. C'est un gars assez simple dans son contact avec les gens, là, qui se prend vraiment pas pour un autre. Des fois, quasiment pas assez dans ses... C'est très, très... certains diraient gros gens comme devant.
Oui.
Mais je sais pas comment il se comporte avec une Altesse royale.
Avec le futur roi d'Angleterre, je ne sais pas.
Là, moi, je serais mal à l'aise. Je suis sûr que je serais pas bien.
Tu sais qu'avec la reine, tu y touches pas, là. Mais là, le prince, il est pas encore roi.
Mais ça a l'air comme la
photo.
Il y a une photo qui circule, là, qui vient visiblement du téléphone cellulaire d'un employé, là, du cabinet de M. Legault. Ça a l'air quand même assez détendu. Ils sont assis à une table. Ça fait royal un peu, là.
J'ai vu sur les réseaux sociaux que certains critiquaient parce que on a publié une photo de François Legault dans les derniers jours à Glasgow, où il est à l'extérieur, marche seul avec un masque. Et avec le prince Charles, à moins d'un mètre, il n'y a pas de masque.
Ils sont plus qu'un mètre quand même, non?
Ben, on le mettre...
Un court mètre?
Ben, bouche à bouche, peut-être un mètre. Mais ils sont comme assis un à côté de l'autre.
Ouais, ouais.
Alors certains, si tu as un masque dehors, pourquoi tu ne portes pas de masque en dedans avec quelqu'un d'autre autour de la table? J'ai vu que c'était une critique qui revenait sur les réseaux sociaux. Alors, bon, reste à voir. Faut dire quand même sur l'intérêt du prince Charles pour l'environnement, la famille royale n'a pas patte blanche là, en termes d'empreinte carbone. Certains évaluent, je disais... Là,
mais c'est gros à chauffer, ça, le château. Là.
Ben oui, puis ils en ont plus qu'un.
Non, plus
là,
qu'un, oui.
Ça chauffe pas des trucs en pierre comme ça. Et les voyages aussi, parce que voyage pas nécessairement en classe économique, voyage aussi quand même beaucoup. Ils ont plus de yacht royal et compagnie, mais semble que ça ait à peu près la famille royale, l'empreinte de 400 familles britanniques moyennes. Alors, c'est pas parfait encore. Il y a du travail à faire partout dans le monde, mais également dans la famille royale. Bon, changeons de dossier pour parler d'un procès vraiment particulier aujourd'hui à Québec. Un homme qui a mis le feu à son ancienne conjointe en août 2019. Vous vous souviendrez peut-être de cette histoire-là. Aujourd'hui, donc, Frej Haj Messaoud, 41 ans, a reconnu sa culpabilité sur ce drame survenu il y a 2 ans et 3 mois, mais ne reconnaît pas certains facteurs aggravants, ce qui vont amener, malheureusement, à voir la victime aller raconter les faits dans les prochains jours. C'est ce qu'on comprend. Le juge Guy Deblois, qui, avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité, a demandé à l'avocat de la couronne, au poursuivant, de raconter les faits. Et c'est vraiment troublant.
Mais rappelle-nous donc le détail de ce qu'on sait, là.
Eux avaient été mariés pendant 6 ans, mariage marqué par beaucoup d'épisodes de violence. Et ensuite, Haj Messaoud, l'accusé, demande le divorce. Un peu plus tard, en juillet 2019, alors qu'ils ne sont plus en couple, elle fréquente un autre homme maintenant. Et l'accusé est passé devant chez elle, l'a vu avec un autre homme, l'a traité de salope et de pute. On dit ensuite qu'il est allé la cerner dans sa résidence à au moins 37 reprises dans les semaines précédant la tentative de meurtre. Et ensuite, il s'est procuré de l'essence, l'a transvidé dans un thermos à café, s'est rendu chez la victime. Et alors qu'elle sortait des achats de sa voiture, elle dit avoir senti une main sur sa bouche, un liquide coulé sur ses cheveux et le long de son dos. Elle pensait que c'était de l'acide, mais a senti l'odeur d'essence, l'a imploré de lui pardonner, mais il a sorti un briquet et l'a enflammé. Écoute, elle a pris en feu sous les yeux de sa fille de 6 ans, qui a dit avec ses mots d'enfant que son père avait fait un feu sur sa mère. Et elle a été gravement brûlée sur 30% de son corps. Des voisins ont été capables de lui venir en aide. Elle a été entre la vie et la mort dans le coma pendant très longtemps. Et donc, il a plaidé coupable, mais refuse certains facteurs aggravants.
Elle reste avec des séquelles très importantes. Là,
absolument. Elle a plusieurs chirurgie, des greffes de peau et tout ça, encore traumatisé de tout ça. D'ailleurs, craint que l'accusé envoie quelqu'un pour terminer ce qu'il a commencé. Et aujourd'hui, l'accusé a demandé de pouvoir s'excuser à elle et qu'elle soit présente, parce qu'elle n'était pas présente. Et ça, l'avocat a dit, c'est assez particulier. C'est elle qui va décider si elle est présente ou pas. Je vais vous faire entendre d'ailleurs le procureur Rochette dans ce dossier-là, maître Mathieu Rochette, qui a expliqué un peu ce qui s'était passé aujourd'hui.
Il y a deux bémols à ce plaidoyer de culpabilité-là. D'abord, il intervient très tard, le plaidoyer de culpabilité. Là, on était à 3 jours de l'ouverture d'un procès devant le jury. Ça fait 2 ans et 3 mois que les procédures sont commencées. Puis l'autre bémol, c'est que il y a plein de faits qui sont des facteurs aggravants que l'accusé ne reconnaît pas. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va obliger le ministère public à en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, notamment par le témoignage de la victime.
Parlons de ces dossiers d'agression sexuelle dans l'armée qui seront finalement transférés aux civils. Décision, une des premières décisions importantes de la nouvelle ministre de la Défense, Anita Anand, qui a annoncé donc qu'elle suivait...
On pourrait quasiment dire une des premières grosses décisions importantes du nouveau cabinet tout court là, depuis la formation du cabinet de M. Trudeau.
Tout à fait. Elle a accepté, en fait, dans leur intégralité, les recommandations intérimaires de l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, qui demandait donc de transférer immédiatement une recommandation d'une précédente enquête. On se souvient qu'on avait déclenché plein d'enquêtes.
Pour démêler les gens, là, oui. Sur les inconduites sexuelles dans l'armée, il y a eu l'enquête de la juge Deschamps, 2015, je ne vais pas me tromper d'année. Ça a été suivi par le juge Fisch. Puis là, mais pour la... Dans le fond, faut comprendre qu'à un moment donné, le ministre Sajjan, qui était là avant, je pense qu'il était rendu à l'étape de gagner du temps, là, de demander à quelqu'un d'autre de refaire un autre processus. Et là, c'est l'ancienne juge Louise Arbour qui a fait le rapport. Et donc, on dit aujourd'hui, ce sont les conclusions de la juge Arbour.
Mais en fait, c'est que la juge Arbour a dit, vous devez prendre... Là, je suis en train de faire mon rapport, vous allez l'avoir là, au printemps ou à l'été prochain.
Ce que le juge Fish a dit...
C'est urgent, parce que l'ancien juge de la Cour suprême, Maurice Fish, avait dit, entre autres, que les cas d'inconduite sexuelle devraient être traités plutôt au système civil, de façon temporaire, parce qu'il y a un malaise en ce moment avec le système des forces armées. Et ça, elle dit, c'est intérimaire, mais il faut faire ça tout de suite. Et la ministre a décidé d'aller de l'avant avec ça, rappelant quand même que c'est une version intérimaire et qu'il y aura, dans le rapport définitif, d'autres recommandations. Un mot sur l'UPAC aujourd'hui, puisque deux policiers de l'unité permanente anticorruption, dont le numéro 2 de l'organisation, ont été relevés de leurs fonctions, affectés à des tâches administratives à la suite de ce dossier d'importance, l'avortement du procès de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. On se souvient que ces deux enquêtes-là avaient été sévèrement blâmées par la juge Nancy McKenna mi-octobre pour avoir caché des informations sur un témoin de la couronne lors des procédures judiciaires. Enfin, on comprend que les enquêteurs voulaient tellement arriver à compléter leur dossier qu'on a tourné les coins ronds, on a voulu cacher certaines informations, de sorte que le temps qu'il y ait enquête et qu'on puisse aller au fond des choses, les deux sont relevés de leurs fonctions et ça touche donc le commissaire associé aux enquêtes, Sylvain Baillargeon, qui est carrément le numéro 2 de l'organisation, et Yannick Lacourcière, qui est son collègue, une officier.
C'est ce qui m'a frappé, parce que quand... tu sais, on entend ça aux nouvelles, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne suis pas à notre bureau d'enquête, on pense que... deux policiers sont visés par la juge dans le dossier de l'enquête de Terrebonne. C'est deux enquêteurs, là, tu sais, qui sont des enquêteurs de terrain. Alors, j'étais loin de penser à ce moment-là que c'était des si haut gradés dans l'UPAC, là, qui étaient visés par la juge McKenna. Mais, voyant ça, j'imagine l'onde de choc, là, à l'intérieur de l'UPAC quand ce jugement-là est tombé, là, mi-octobre.
Il y aura le rapport annuel de gestion de l'UPAC dans les prochains jours, la semaine prochaine. Donc, Frédéric Godreau qui va répondre aux questions.
Censé parler aux médias, ouais.
Alors, ça va assurément revenir, ce dossier. On surveille le taux de vaccination des employés fédéraux, des fonctionnaires fédéraux, parce qu'on arrive tranquillement à cette date limite du 15 novembre. On se souvient que la date butoir, c'est le 29 octobre pour la divulgation du statut vaccinal, qui est obligatoire pour les employés fédéraux, décision de Justin Trudeau. Mais on avait jusqu'au 15 novembre avant d'être mis en congé sans solde. Mais aujourd'hui, on donnait le chiffre de 95% pour deux doses, 98% pour une dose, donc quand même très bon, bien au-delà des taux réguliers dans la population.
Ce serait comme honteux. C'est ça qui va arriver, qu'on arrive à un taux de 98%. C'est-à-dire qu'on arrive à un taux plus élevé pour des fonctionnaires fédéraux de tout ministère que
dans
le milieu de la santé au Québec. Mais d'ailleurs, dans le milieu de la santé au Québec, il y a un vrai problème, là. Tu sais, le milieu de la santé en France, quand ils ont dit, là, ces vaccinations obligatoires, ils sont montrés à 99,4%. Donc, la partie pas vaccinée, c'était 0,6. Alors qu'ici, nous, on était à 94%, fait que c'était 6%. Fait que 6, là, c'est 10 fois plus que 0,6, que 0,6. C'est qu'on a 10 fois plus de personnes. T'sais, une fois que tu as poussé la machine à son dernier retranchement, tu as 10 fois plus de personnes qui sont soit complotistes ou qui refusent le vaccin au Québec. Puis tu sais, la France, c'est pas exactement un pays où les gens obéissent au gouvernement au doigt et à l'œil. Au contraire.
Peuple qui revendique beaucoup.
Mais là, c'était ça la logique, fallait se faire vacciner. Alors, c'est pas une fierté. T'sais, on dit notre système de santé, puis il y a toutes sortes d'affaires qui marchent pas, puis c'est toujours la faute des administrateurs. Mais moi, excusez-moi d'être chien, là, mais ça soulève toutes sortes de questions sur c'est qui au Québec qu'on a recruté, comment ils ont formé, c'est qui travaille dans le réseau de la santé au Québec exactement. C'est bizarre, là.
On peut terminer avec une bonne nouvelle quand même reliée à la COVID, puisque le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui être le premier pays à autoriser cette pilule contre la COVID de la compagnie Merck, le Molnupiravir. Premier médicament donc qui permettra de lutter contre la COVID-19. On sait que la première arme, ce sont les vaccins, mais quelqu'un qui a la COVID, qui a est malade, soit parce qu'il n'a pas été vacciné, soit parce qu'il est vulnérable, immunosupprimé et compagnie, on pourra le traiter avec ce médicament qui ralentit la capacité du virus à se répliquer. Alors, ralentit à toute fin pratique la maladie. Ça permet aux personnes déjà atteintes de ne pas souffrir de symptômes plus graves. Ça permet aussi à celles ayant été en contact rapproché de ne pas le développer. Donc, on le donne à des gens qui ont des COVID léger à modéré, avec des risques de développer une maladie grave, donc des gens qui ont d'obésité, plus de 60 ans, diabète, maladie cardiaque. Mais c'est un outil de plus. Plusieurs pays devraient suivre, possiblement le Canada aussi. On a commandé au Royaume-Uni plus de 500 000 doses de ce traitement nouveau genre. Alors, à suivre.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.